travailles pour toi, tu travailles pas pour les professeurs. Et ça, c'est ce qui fait la différence dans tout un parcours professionnel ou même universitaire. Et ça, une fois qu'on a compris ça, de toute manière, on peut que avancer et avoir des bonnes expériences au cours de sa vie.
Bienvenue dans le podcast Altitude, le podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Il n'y a pas de réussite ni d'échec, il y a juste les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. En tout cas, ce que je regrette, c'est les choses que je n'ai pas faites. Et donc, comme j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, je ne regrette rien.
Je m'appelle Emma, je suis étudiante en sciences politiques européennes à ESPOL. Et pour ce nouvel épisode, j'accueille Louis, qui a effectué, après une réorientation, une troisième année de licence professionnelle banque en alternance à la faculté de gestion, économie et sciences de l'Université catholique de Lille. Il a continué en master management des banques et institutions financières et est aujourd'hui banquier après plusieurs métiers très différents. Alors bonjour Louis.
Bonjour Emma.
Alors avant de revenir sur ton parcours, on va évoquer un peu ton métier actuel. Tu es banquier ou plus exactement gestionnaire clientèle institutionnel et associatif. En quoi ça consiste exactement ?
Tout à fait. Alors, ça va consister justement à aider des chargés d'affaires au sein du centre d'affaires, associations et institutions du CIC, justement dans l'accomplissement de leurs tâches pour la gestion des crédits ou à la gestion de la clientèle. Par exemple, tous les incidents qu'il peut y avoir autour de connexions ou alors de cartes bancaires. Et en fait, on va être là justement pour les accompagner au mieux et également en appui des chargés d'affaires pour du montage de dossiers de financement.
Parce qu'on a souvent la seule image du banquier comme quelqu'un qui gère les comptes personnels des clients de la banque. Toi, tes clients sont des institutions et des associations. Qu'est-ce que ça change concrètement ?
Alors, ce qui va changer pour moi, pour avoir justement fait les deux parties, particulier et association, institution, ce qui change, c'est réellement le sens que je peux donner derrière. À la fin de ma journée, je sais que j'ai aidé des associations ou alors des bénévoles justement à pouvoir régler des incidents qui peuvent les impacter dans leur activité. Et pour moi, ça a beaucoup de sens. Et même si il y a beaucoup de travail, c'est très enrichissant pour moi et également pour ma famille, parce que c'est vrai que c'est des métiers dans la banque qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et c'est une réelle fierté de pouvoir justement travailler au sein de ce centre d'affaires spécialisé.
Et à quoi ressemble ton métier en pratique ? Quel type de tâches, de missions tu fais au quotidien ?
Alors au quotidien, on va valider des virements importants et on va vérifier justement la conformité de ces virements. Par exemple, après, on peut également faire de l'analyse financière, on peut également... C'est très varié, en fait, on n'a jamais une journée qui se ressemble. Et ça, c'est très important, surtout en banque, parce qu'il y a beaucoup de métiers où, justement, c'est assez rébarbatif. Que là, évidemment, on a des tâches assez quotidiennes, comme vérifier des conformités, comme je venais de l'expliquer. Mais on a énormément d'imprévus, et c'est ça qui est la richesse de ce métier.
Alors, on va maintenant revenir quelques années en arrière sur ton parcours qui est quand même assez atypique. Du coup, au moment du bac, ton rêve était de devenir ingénieur aéronautique. Tu as fait une année de prépa maths à Montpellier. Comment s'est passée l'expérience de la prépa ?
Alors, pour être tout à fait honnête, c'était pas une très bonne expérience pour moi. Après, toute expérience est bonne à prendre. Et ça m'a permis justement de savoir que c'était pas fait pour moi. Et ça m'a permis justement de me réorienter derrière. Mais c'est vrai que c'est un travail assez acharné. Et même si c'était pas fait pour moi, j'ai appris des techniques d'apprentissage qui m'ont servi tout au long de ma vie et notamment dans mon parcours d'études et au travail tous les jours.
Alors tu dis que tu t'es réorienté, tu as bifurqué ensuite et tu t'es engagé dans l'armée en tant que météorologue océanographe. Tu peux nous décrire en quoi ça correspond, quelle formation tu as reçue pour exercer ce métier alors que tu avais seulement 20 ans ?
Alors j'avais postulé pour météorologue océanographe et en réalité j'avais été après contrôleur aérien dans la marine nationale. Quand on est météorologue dans la marine nationale, on est formé à nos classes à Brest pour devenir militaire et ensuite on est formé à Météo France. Mais j'avais pas pu justement devenir météorologue océanographe car j'avais eu un problème au genou et donc j'avais dû repartir faire une année d'études supplémentaires pour faire de la rééducation. Et ensuite repartir à l'armée, mais cette fois-ci en tant que contrôleur aérien dans la marine nationale.
Et est-ce que tu peux nous expliquer le métier de contrôleur aérien dans la marine nationale ?
Oui, alors justement, c'est très enrichissant également. Et c'est le type de métier qu'on n'a pas forcément à l'esprit quand on parle de marine nationale, car on est sur des bases aéronavales, donc proches de la mer. Et on travaille donc avec des aéronefs, type avions de chasse ou avions de transport. militaire et civil. Et donc, on apprend justement le métier de contrôleur aérien à l'ENAC à Toulouse. Donc, l'École nationale de l'aviation civile, ça faisait partie de mon parcours militaire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on apprend justement à devenir contrôleur aérien militaire, qui est une formation en parallèle des contrôleurs aériens civils.
Et tu as évoqué tout à l'heure le fait de faire ces classes à Brest. Est-ce que tu peux expliciter un peu ce terme qui est, c'est du jargon militaire. En quoi ça correspond?
Alors c'est une période assez courte généralement de quelques mois qui nous permet justement d'apprendre tous les codes militaires, de s'endurcir également mentalement, donc par des exercices physiques très acharnés. Et ça nous permet également d'apprendre une partie de notre spécialité future, car aujourd'hui on est une armée professionnalisante qui nous permet justement d'acquérir des bases. Et donc, les classes nous permettent justement de devenir militaires dans notre tête, dans notre esprit, d'acquérir ces valeurs et ensuite de pouvoir partir vers notre formation de spécialité.
Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement, cette formation militaire?
Alors, ça m'a apporté énormément de choses sur le plan personnel et professionnel. Ça m'a appris les valeurs comme l'honneur, la discipline, la ponctualité, le respect aussi de l'autre, savoir prendre du recul dans des situations difficiles, car aujourd'hui, je pense que c'est très très important d'avoir ce type de compétences, parce que ça nous permet justement d'appréhender des situations comme on a pu vivre avec le Covid, et de relativiser beaucoup, et justement de pouvoir toujours faire son travail avec discipline, et donc de bien le faire.
D'accord, alors on va revenir sur ta réorientation plus en détail dans quelques instants. Mais en 2016, tu te lances dans un BTS banque et finance avant d'intégrer une L3 banque à la Cato. Est-ce que redevenir un étudiant dans un cursus classique, entre guillemets, ça t'a plu? Quelles étaient tes attentes à ce moment-là?
Alors au début, ça m'avait fait très peur, parce que j'avais peur de reprendre mes études, parce que j'avais 23 ans à cette époque-là, et de reprendre des études avec des gens plus jeunes que moi, et est-ce que je vais m'adapter, est-ce que je vais aimer ce que je vais faire. Et au final, très vite, je me suis rendu compte que les études, aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour en faire, et on est très vite réadapté au sein de l'école, et puis surtout, si on le fait en alternance, ça nous permet de tout de suite savoir si on aime ce qu'on va faire ou pas. Voilà, c'était ça mes attentes, et du coup, elles ont été comblées.
Ton expérience à la Cato t'a plu?
Oui, tout à fait. Surtout le campus qui est super. La qualité des intervenants aussi, car en licence pro banque, on a des intervenants qui viennent directement du secteur bancaire. Donc on a en même temps leur analyse, leur avis professionnel sur des parcours de carrière. Et ça, c'est très enrichissant. Et c'est vraiment à la Cato que, en plus des intervenants, la qualité des cours est vraiment super, et ça nous permet vraiment d'acquérir des bonnes bases pour rentrer sur le milieu du travail.
Et tu as effectué du coup cette licence 3 professionnelle en alternance. Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Alors ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà j'avais fait mon BTS en alternance, donc c'était un parcours que je voulais continuer, car ça me permet justement d'acquérir les codes de la banque, les codes de l'entreprise, parce que chaque entreprise, chaque secteur a ses propres codes. On a l'impression que le milieu de l'entreprise fonctionne toujours de la même manière, mais chaque entreprise, même du même secteur, fonctionne très différemment. Donc ça nous permet justement d'acquérir énormément de compétences sur le milieu du travail et savoir ce qu'on veut vraiment. Et c'était vraiment une très belle expérience pour moi. Ça m'a apporté beaucoup de choses sur le plan personnel et professionnel. Notamment en banque, car on rencontre énormément de monde. On parle avec beaucoup de personnes, on est souvent confronté à leurs problématiques d'argent, donc c'est quand même des choses très importantes. Donc ça nous permet également de prendre du recul sur la vie ou sur les choses qui nous entourent.
Et tu finis donc ce cursus par un master management des banques et institutions financières, toujours à la Cato. Quel souvenir tu en as?
Alors, un souvenir contrasté, notamment par l'arrivée du Covid au début de la première année du master, qui a justement chamboulé, mais ça tout le monde a pu le vivre, chamboulé notre activité déjà professionnelle, puisque comme je l'avais fait en alternance, il y avait cet aspect-là, et en plus l'activité école. J'en garde un très bon souvenir, parce que justement il y a eu un très bon accompagnement de l'Université catholique de Lille, notamment sur les classes à distance, sur les intervenants qui ont été bien briefés justement sur comment bien gérer leurs cours à distance pour qu'on soit toujours alerte. Alors évidemment, c'était pas facile tous les jours, mais bon, au final, on a tous eu notre master dans la classe, et franchement, on a gardé une bonne ambiance malgré cette distanciation sociale. Et c'est ce que je peux remercier à la Cato, c'est d'avoir été toujours présent pour nous quand il y avait des soucis, notamment dans le personnel.
Alors, on va maintenant aborder du coup ta phase de réorientation en tant que telle. Ton expérience, elle est particulière, car tu es passé d'un parcours professionnel peu commun un parcours plus ordinaire. D'ailleurs, juste avant ta réorientation, tu occupais le poste de responsable de l'armurerie au sein du ministère de la Défense. Tu peux nous expliquer en quoi ça consistait ?
Alors ça, c'était une très belle expérience sur le plan personnel. Ça consistait justement à garder, on va dire, les armes, donc les armes du personnel qui faisait les patrouilles autour du ministère de la Défense et également tout ce qui pouvait s'y rapprocher. Donc j'étais responsable d'une équipe de 3 personnes et donc c'était très enrichissant parce qu'ils étaient tous plus vieux que moi, ils avaient tous une expérience militaire terrain que moi je n'avais pas forcément eu de la même manière. Ça consistait justement à rester de marbre face à l'adversité, parce qu'à ce moment-là, c'était en 2015, au moment des attentats du Bataclan. Et donc, c'était une période très stressante pour tout le monde, pour les civils comme pour les militaires. Et donc, c'était très enrichissant. Je pourrais pas forcément en dire plus, évidemment.
C'était juste voilà. Pour expliquer un petit peu en quoi ton rôle consistait, parce que voilà, c'est un des métiers dont on n'entend pas parler, un des métiers justement qui est caché de par sa nature. Et du coup, tu quittes ce poste, et que se passe-t-il ensuite ?
Alors, je quitte ce poste parce que j'ai pu avoir l'occasion de partir justement de l'armée, parce que je voulais justement me renseigner beaucoup plus sur l'économie en tant que telle, et donc c'était pas forcément quelque chose d'apprécié par mon entourage au départ, car l'armée c'est quand même très sécurisant pour la famille, en tout cas à cette époque-là. C'était très difficile pour moi de prendre cette décision, parce que même pour moi, quitter un contrat comme ça, c'était pas une décision facile à prendre, mais j'avais besoin de le faire. Et comme tout à chacun, quand on a envie de changer, parce qu'on sent qu'on n'est plus à sa place, il faut le faire, parce que en fait, on n'en retire que des bonnes expériences. On retire énormément d'enseignements. Le fait de prendre une décision, et faut surtout se dire qu'il n'y a pas d'échec ni de réussite, parce que quand on prend une décision, on peut pas regretter d'avoir fait quelque chose pour son bien. Donc voilà.
Et est-ce que tu peux nous raconter le processus de ta réorientation ? Est-ce que tu as eu un déclic, ou est-ce que c'était une réflexion du coup plus progressive ? Tu as évoqué que tu avais un intérêt pour l'économie, mais qu'est-ce qu'il s'est passé vraiment au moment de ta réorientation ?
Alors c'était un déclic, parce que je voulais m'intéresser à d'autres choses, je voulais changer de vie, et en même temps il y avait un contexte particulier au sein de l'armée à ce moment-là, et donc j'avais besoin justement de changer d'orientation. C'était vraiment intérieur. Je pourrais pas forcément l'expliquer, mais c'est vrai que c'est des décisions qu'on prend parfois un peu sur un coup de tête, mais faut savoir écouter aussi son cœur, et à ce moment-là j'avais besoin de changer d'air et mettre les voiles pour le coup.
Du coup, l'idée de reprendre les études, elle germe grâce à un rendez-vous que tu as eu dans une banque. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Oui, en fait, je devais placer une prime justement suite à mon départ de l'armée. Et je me suis rendu compte qu'en parlant avec ma conseillère en banque, que je ne connaissais pas du tout la banque en elle-même et où partait mon argent, qu'est-ce qu'on en faisait. Et c'est là que je me suis dit, mais j'ai besoin d'apprendre aussi, déjà que l'économie m'intéressait, j'avais besoin d'apprendre le fonctionnement de l'économie. Et puis la banque, c'est vraiment un acteur central. Donc ça m'a permis justement de comprendre ces clés. Et c'est vraiment ma conseillère qui m'avait indiqué son parcours, qui m'avait dit qu'elle aimait ce qu'elle faisait, que je remercie d'ailleurs aujourd'hui, parce que ça me permet d'avoir le poste que j'occupe actuellement. Et donc j'ai suivi à peu près le même parcours qu'elle au début. Et c'est devenu ma collègue, notamment, après.
C'est une histoire sympa à raconter.
Tout à fait.
Et ça peut paraître assez facile de rentrer dans le rang, entre guillemets, comme toi tu l'as fait, en reprenant un cursus universitaire qui débouche sur un métier classique de banquier. Mais toi, tu l'as vécu comment, ce passage ?
Alors, au début, c'était pas facile, car c'était vraiment tout nouveau pour moi. Reprendre des études en plus en alternance, c'était un choc, entre guillemets, parce que c'était un beau choc. Et j'ai tout de suite pu m'adapter, justement, grâce aux valeurs que j'avais pu apprendre à l'armée. Ça m'a permis, justement, de m'adapter à toutes les situations professionnelles que j'ai pu vivre après. Et donc, oui, c'est une expérience particulière que tout à chacun peut réaliser. Et ce qu'il faut surtout, c'est jamais baisser les bras, car il y a forcément des moments difficiles dès le début, notamment quand on reprend ses études après une période professionnelle, on a l'impression qu'on n'arrive plus à apprendre par cœur, on n'arrive pas à développer les compétences qu'on nous demande, et au final, ça se passe très bien. Et donc, voilà, si c'est un message que je peux faire passer, faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie de faire et à reprendre des études, car il y a toujours des possibilités derrière.
Surtout que j'imagine que tu n'as pas eu forcément de modèle de personnes qui ont eu ce même cursus, parce que c'est quelque chose d'assez atypique de justement raccrocher des études à cet âge-là en plus. Donc, tu étais un peu seule. Comment tu t'es sentie?
Tout à fait. Alors, c'est vrai que toutes les décisions que j'ai pu prendre, de toute façon, dans ma vie, j'étais un peu seule à les prendre. Alors, j'ai toujours eu, évidemment, le soutien de ma famille. Mais c'est vrai qu'on se sent un peu seul dans le sens où on est face à l'inconnu. Après, tout dépend de comment on gère la solitude. Mais moi, je la gérais très, très bien. Et ça m'a permis justement d'être face à moi-même et d'apprendre à me connaître aussi. Et donc c'est vrai que quand on n'a pas de modèle, on a l'impression qu'on va un petit peu dans le vide. Et au final, non, pas du tout. On monte un escalier et puis on fait que le monter au final toute sa vie. Donc voilà.
Et tu as vécu, du coup, en quelque sorte, plusieurs vies. Tu as eu plusieurs métiers. Si tu te retournes sur ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que tu tires aujourd'hui de tes expériences?
Alors, ce que je vais tirer de mes expériences aujourd'hui, c'est que toute expérience est bonne à prendre, même si on a l'impression qu'elles sont mauvaises et que c'est pour ça, justement, qu'on change de métier, qu'on change de voie. On se rend compte toujours par la suite. Après, ça peut être quelques jours, quelques semaines ou quelques années, que ça a été bénéfique pour nous. D'une certaine manière, et c'est vrai que quand on sait ça, on appréhende beaucoup moins l'avenir, et notamment les futures décisions qu'on prend. Et du coup, ce que je peux tirer comme expérience de tout ça, c'est toujours faire ce qu'on a envie de faire. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de réussite ni d'échec, il y a juste les choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas. En tout cas, ce que je regrette, c'est les choses que je n'ai pas faites, et donc comme j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire, je ne regrette rien. Donc,
ouais. Et justement, tu évoques l'appréhension que tu pouvais avoir. Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments un peu de passage à vide?
Oui, et d'ailleurs, il faut en avoir, je pense, des moments de passage à vide, des moments de doute, parce que c'est dans ces moments-là qu'on se remet en question de A à Z. Ça nous permet justement de se redécouvrir, parce qu'on évolue tout au long de sa vie. Et donc, j'ai eu des moments de doute au moment où je me suis engagé dans l'armée, évidemment. Même si j'étais sûr de moi, quand on arrive dans un milieu comme ça, c'est vrai que c'est particulièrement impressionnant. Quand on arrête l'armée pour reprendre des études, alors qu'à la base, on savait même pas qu'on allait reprendre des études, on a des moments de doute. Et donc, pareil, on se remet face à soi-même. On réévalue justement nos désirs qui changent tout au long d'une vie. Aujourd'hui, les parcours classiques, un métier toute sa vie, le même, c'est voué à disparaître de toute manière. Donc autant s'acclimater tout de suite et faire face à soi-même dans des moments comme ça, parce que ça nous permet justement de mieux rebondir derrière.
Donc tes forces dans ces moments-là, ça a été l'adaptation?
Tout à fait, ouais, l'adaptation. L'adaptation, savoir prendre du recul, qui est la clé de l'adaptation. Savoir où on va, ça on le saura jamais vraiment, parce que c'est l'essence même du changement de voie, c'est qu'on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va quand même. Donc faut vraiment avoir confiance en soi-même, avoir confiance en l'avenir. Avec le temps, on se rend compte que tout est lié et que tout nous amène au point où on est aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que on est comme ça. Donc, quitte à faire ce qu'on aime, autant être fier de soi.
Est-ce que tu as eu des soutiens tout au long de tes différentes expériences professionnelles dans tous les domaines auxquels tu as pu toucher?
Alors, j'ai eu des soutiens et pas que des soutiens d'ailleurs. Et c'est important aussi de ne pas avoir que des soutiens. J'ai eu les soutiens de ma famille sur certains points. Sur certaines décisions, ils n'étaient pas forcément d'accord. Après, je leur ai fait comprendre que c'était mes décisions. Donc, ça leur a permis de me soutenir encore plus derrière, de savoir s'affirmer, c'est très important. Et je remercie aussi ceux qui ne m'ont pas soutenu, parce que ça a mis à l'épreuve aussi ma détermination de faire mes propres choix. Alors ça, c'est difficile, parce que soit on appréhende mal le fait qu'on critique nos choix, soit on l'appréhende très bien. Après, c'est rarement quelque chose qu'on apprécie sur le coup, mais ça nous fait grandir tout le temps. Et voilà, c'est un conseil que je peux donner également, c'est que voilà, on peut avoir des soutiens, mais on en aura beaucoup, il y aura beaucoup de personnes qui vont pas forcément nous soutenir. D'ailleurs, il y a plus de personnes qui ne nous soutiennent pas qui nous soutiennent. Et voilà, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a, la force qu'on arrive à trouver en soi-même et la volonté qui fait qu'on arrive là où on veut aller. Voilà.
Le fait d'avoir des points de vue un peu adverses, ça t'a fait te poser des questions?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, ça nous permet justement de se remettre en question tout le temps, sur des points aussi qu'on pensait acquis. Car justement, quand on nous critique, c'est souvent sur des points qui font mal. Et c'est rarement ceux qu'on a envie d'explorer quand on est justement dans un moment de solitude, quand il faut prendre un choix. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faut se dire « Ok, bon ben, ça, c'est quelque chose que je dois modifier chez moi, ou alors c'est quelque chose qui me permet d'avancer. Mais dans tous les cas, ça nous permet de se remettre d'aplomb et d'aller de l'avant. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun sa vision.
Et comment est-ce que tu envisages l'avenir, toi qui as un parcours si atypique? Est-ce que tu te vois à nouveau changer de métier dans les années à venir?
Ah oui, je pense que c'est inéluctable. Alors j'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Et comme je me sens très bien là où je suis, je compte rester le plus longtemps possible. Mais je me connais et je sais que je vais avoir des aspirations différentes au bout de quelques années, je dirais. J'ai la chance de faire partie d'un groupe comme le CIC Nord-Ouest qui me permet justement d'avoir des carrières transversales et d'avoir justement une diversité de métiers en banque dont on ne soupçonne pas. En tout cas, quand on n'y travaille pas, on n'a pas soupçon de tout ce qui peut exister en banque. Et vraiment, c'est un milieu très, très enrichissant. Et alors, si je termine pas ma carrière en banque, c'est possible, mais en tout cas, c'est pas pour maintenant.
Est-ce que tu te verrais changer à nouveau de voie un peu radicalement et te réengager dans l'armée, par exemple?
Ah oui, c'est tout à fait possible. Après, peut-être pas dans l'armée en tant que telle, mais pourquoi pas retourner vers une carrière plutôt de fonctionnariat ou alors... vers des métiers comme contrôleur fiscal ou douanier. C'est des choses que j'étudie, mais qui ne sont pas arrêtées à aujourd'hui.
Pour lier en quelque sorte tes deux expériences?
Tout à fait, oui. Surtout la douane financière qui m'intéresse particulièrement. Mais comme je disais, pour l'instant, je suis très bien là où je suis. Et il y a des métiers à la banque qui ressemblent énormément à ce qui m'intéresse en dehors. Donc pourquoi pas justement continuer dans cette voie-là au sein de mon groupe actuel.
Et ce changement de, enfin ce besoin de changement, est-ce que c'est dans ton ADN?
Oui. Pourquoi? Parce que j'ai un père qui est comme ça et qui voyage beaucoup, qui a toujours été très solitaire, on va dire, dans sa façon d'être. Et il a toujours aimé le changement, il a toujours aimé faire des choses par lui-même. Et du coup, mon frère et moi, on a hérité de ce gène. Et mon frère aussi, il a un très très beau parcours dans la cuisine et c'est un parcours qui m'a inspiré tout au long de ma vie. Donc voilà, on est tous un peu pareil dans la famille et c'est ce qui fait notre force aussi et c'est ce que on retrouve au final quand on a des moments de doute. Justement, la famille, c'est ce qui nous permet de nous rattacher à un pilier sûr et de repartir sur des bonnes bases.
Est-ce que tu te verrais peut-être dans quelques années reprendre un cursus étudiant?
Alors c'est quelque chose qui germe dans mon esprit parce que c'est vrai que le fait d'être à l'université en tout cas c'est quelque chose de rassurant pour moi parce que je sais que je peux apprendre énormément de choses que ce soit dans des livres ou des autres parce que du coup les intervenants ou même les étudiants on a chacun notre parcours et du coup c'est un lieu pour moi l'université qui est très enrichissant et donc je pense que j'y retournerai mais peut-être pas forcément sous la forme d'étudiant mais ça m'intéresserait beaucoup plus de devenir intervenant ou de passer des concours peut-être même un jour pour être prof comme je disais je ne suis fixé à rien et donc c'est un milieu qui m'intéresse particulièrement. Voilà.
Tu aimes apprendre, tu aimes aussi enseigner?
Tout à fait, ouais, j'aime beaucoup apprendre et j'aime faire comprendre aussi aux autres certains sujets qui me passionnent. Donc comme la finance m'intéresse particulièrement, pourquoi pas un jour lier mon expérience de finance ou de banquier justement à l'université ou faire naître des vocations peut-être, on ne sait jamais.
Et justement, en parlant d'expérience, est-ce que tu voudrais utiliser cette expérience, ce parcours de vie un peu atypique et éventuellement le transmettre aux étudiants?
Tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup parce que aujourd'hui, on voit que les étudiants ont beaucoup de doutes sur ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils doivent faire. Au final, on ne doit jamais faire quelque chose, on le fait parce qu'on veut le faire. Mais c'est vraiment des choses que j'ai pu apprendre justement grâce à mes expériences différentes. Et si je peux faire partager ça pour rassurer les étudiants ou ceux qui ne le sont pas, qui veulent le devenir, ou ceux qui le sont et qui ne veulent plus l'être, ça, c'est des choses que j'aimerais beaucoup partager, que ce soit avec des étudiants jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, car ce qui est bien avec l'alternance, ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur le fait qu'on peut reprendre ses études à n'importe quel âge, même jusqu'à 30, 40 ans, 50 ans, il n'y a pas d'âge pour reprendre des études. Et donc c'est très important pour moi de prouver au monde qu'on peut toujours faire quelque chose de ses 10 doigts quand on a envie de le faire. Et voilà.
C'est quoi ta meilleure expérience dans ton parcours ? Maintenant que tu as un peu ce recul-là, qu'est-ce qui t'a plu le plus ?
Alors ça, c'est une question difficile. Quand j'avais dû justement faire responsable de l'armurerie au ministère de la Défense pendant les attentats, c'était une expérience marquante pour moi. Alors sur le coup, c'était une situation très stressante. Donc puis en plus, c'était ma première... mon premier poste de responsable, alors j'espère que ce sera pas le dernier, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi le management, mais ça m'a permis de me retrancher sur moi-même, que rien n'est particulièrement grave en soi, et que tout dépend du point de vue qu'on a, et la chance qu'on a, c'est de pouvoir changer de point de vue quand on a envie, et justement cette expérience m'a permis de mieux me connaître, et de me renforcer intérieurement, et qui fait qu'aujourd'hui je peux... potentiellement changer de voie quand j'en ai envie sans que ça me stresse particulièrement.
Voilà. Tu dis que le management t'intéresse. Est-ce que tu as le goût de la responsabilité ?
Oui, en effet, j'ai besoin d'avoir des responsabilités. J'ai besoin qu'on me fasse confiance dans mon travail, en tout cas. Après, la vie personnelle, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le travail, j'ai besoin qu'on me fasse confiance pour qu'on me laisse l'opportunité de prouver ce que je sais faire. Même si je sais pas le faire, je aussi prouver l'opportunité qu'on peut apprendre sur le tas.
Ça te fait pas peur ?
Pas du tout. Non, non, au contraire, même, ça me motive tous les jours. Et avoir des responsabilités, je trouve ça très engageant dans notre vie de tous les jours. Et pouvoir enseigner ça, par exemple, à des gens ou à mes futurs enfants, qui m'écouteront peut-être un jour. Et justement, ça, c'est des valeurs que j'ai envie de communiquer. Voilà.
Des valeurs, du coup, tes valeurs, toi, tu les as un peu construites toi-même. Mais il y a aussi, j'imagine, une part que tu as... appris lors de ta formation militaire ?
Oui, tout à fait. Alors que ce soit l'armée ou mes parents ou la vie en elle-même, de par les choses qui peuvent arriver dans la vie de tout le monde, de tout à chacun. C'est vrai que l'armée a été très forte pour moi parce qu'elle m'a construite. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et c'est des valeurs qui sont fortes et qu'il faut prôner aujourd'hui, notamment le respect. Je pense que c'est très important aujourd'hui. Que je dirais pas qu'il y en a pas ou qu'il y en a plus. Je dirais juste qu'il faut continuer à en avoir pour les aînés, notamment.
Tu tires ta force de tes expériences ?
Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Ce qui change, je le trouve chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va oser sauter le pas et sortir de sa zone de confort. Et ça, on le remarque tout de suite quand on parle avec quelqu'un qui a eu cette force de le faire. Quand on va commencer à discuter avec quelqu'un de son parcours, s'il a osé bouger de ville, par exemple, rien que ça déjà, ça peut être une sortie de zone de confort, parce qu'il y en a qui aiment leur ville telle qu'elle, ou leur vie même telle qu'elle est. Et ce qui fait la force de quelqu'un aussi, c'est de se donner les moyens de changer sa vie. Et donc de changer de ville, changer de métier ou autre. Après, je dis pas qu'il faut le faire. Si on en reçoit pas le besoin, faut pas le faire. C'est vrai que moi, j'ai tiré ma force, en tout cas, de mes voyages, de mes expériences et de mes rencontres surtout. Car c'est les hommes qui nous entourent, les hommes et les femmes qui nous entourent, qui nous enrichissent. Et c'est que en faisant des choses différentes qu'on apprend à connaître des gens différents.
Très beau ce que tu dis.
Merci.
Est-ce que pour finir, tu aurais un conseil à transmettre aux étudiants qui nous écoutent? Et qui auraient peut-être une phase de doute sur leur orientation, leur réorientation, et qui ont peur de s'enfermer dans une seule voie.
Alors ça, c'est un doute que j'ai connu, que tout le monde connaît, je pense, surtout aujourd'hui. Après, on l'exprime de façon plus ou moins forte en fonction des gens. Et le conseil que je peux donner aujourd'hui à ces étudiants qui sont justement dans ce doute-là, c'est que c'est justifié, mais c'est justifié qu'à l'instant T, parce que demain... Quand on va commencer une voie et si elle nous plaît pas, comme je disais tout à l'heure, on peut changer. Il y a toujours des opportunités. Et c'est pas parce qu'on choisit une voie et qu'on a l'impression qu'on s'enferme dedans qu'on ne peut pas changer derrière. Il y a des interviews très enrichissantes sur sur des journaux différents qui montrent, par exemple, qu'après une carrière, par exemple, en finance pendant 20 ans, quelqu'un peut reprendre ses études en médecine et faire 10 ans d'études et y arriver. Et on est très heureux comme ça. Donc vraiment, c'est vrai que là, je pense surtout à ceux qui choisissent des voies comme le droit ou le juridique ou...
Les voies généralistes.
Les voies généralistes, tout à fait, qui n'ont pas forcément l'alternance, mais plutôt des stages. Alors les stages, c'est très bien, mais c'est vrai que l'alternance, ça permet vraiment d'avoir cette vision de recul et tout de suite savoir si on va aimer ce qu'on va faire. J'espère que ça va se développer. Et si je peux donner un conseil, c'est vraiment faire le point avec soi-même, le pour, le contre de chaque chose qu'on a envie de faire, chaque métier, chaque voie, savoir ce qui est possible ou pas de faire. Parce qu'évidemment, si on veut faire astronaute, là, c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes études, mais tout est possible et vraiment faire le pour le contre. Et c'est comme ça qu'on ne regrettera pas d'avoir pris une décision, d'avoir préparé cette décision et de l'avoir portée haut et fort en son fort intérieur et aux autres aussi.
L'expérience, le fait d'expérimenter un métier, le fait de se rendre compte en pratique, ça aussi c'est très important.
Alors pour moi oui, c'est le plus important et j'avais pas forcément une bonne image, mais en fait j'avais pas d'image du tout de l'alternance avant de l'avoir fait. C'est mon père qui m'avait émis cette idée, parce qu'au final on nous en parle très très peu au lycée, voire pas du tout. Les premières années d'université, on nous en parle pas non plus, notamment quand je pense à des BTS ou des DUT où la plupart peuvent être faits en alternance. Quand on le fait en voie initiale, on nous en parle pas forcément parce que je sais pas s'il y a une dualité forte entre l'alternance et la voie classique, mais pour moi, ça a été très important de faire ce que j'apprenais au quotidien et d'apprendre sur le tas, car au final, j'apprenais beaucoup plus en entreprise qu'à l'école. Ça a été bon pour le BTS, la licence et le master, que j'ai tout fait en alternance, et j'apprenais plus vite, et on va plus loin, je trouve, dans la réflexion quand on fait ce qu'on apprend. Et le fait justement de faire de l'alternance, c'est intéressant, parce qu'on a des intervenants en termes de professeurs qui peuvent justement mettre en corrélation nos expériences qu'on a pu avoir au niveau de la phase entreprise et au niveau de la phase cours. Et ça permet vraiment de corréler et de trouver un sens tout de suite à ce qu'on fait. Et c'est ça aujourd'hui, je pense que les étudiants en voie généraliste peuvent manquer, c'est trouver du sens à ce qu'on apprend. Et c'est ce qui fait toute la différence. Quand on apprend quelque chose, si on y trouve du sens, ça va rentrer tout seul. On n'aura pas besoin de l'apprendre par cœur pendant deux semaines entières. On le lit une fois ou deux. Normalement, si on y trouve du sens et qu'on aime ce qu'on fait, parce que généralement, quand on y trouve du sens, c'est qu'on a un intérêt. Et on peut trouver du sens dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, je pense, dans quelqu'un qui a un parcours, qui se pose des questions en tout cas sur son parcours.
Pour toi, ça a été naturel de trouver du sens, justement ?
Non, pas du tout. Pas du tout, mais en fait, j'ai eu un déclic au lycée, notamment en première scientifique, avec mon professeur de physique-chimie, qui nous donnait toujours le sens de ce qu'on faisait quand on faisait des expériences chimiques. Et l'avantage des expériences chimiques ou physiques, c'est qu'on voit tout de suite un effet des choses. Et donc, je me suis dit, je vais appliquer ça à toutes les matières. Et en fait, ça marche. Ça marche vraiment, mais il faut juste y croire. Après, ça dépend aussi de intérieurement comment on fonctionne, mais... Depuis ce jour-là, même lui, il avait dit « tu travailles pour toi, tu travailles pas pour les professeurs ». Et ça, c'est ce qui fait la différence dans tout un parcours professionnel ou même universitaire ou même au lycée. C'est de travailler pour soi et pas pour les autres. Et ça, une fois qu'on a compris ça, on peut que avancer et avoir des bonnes expériences au cours de sa vie.
Donc toi, tu prônes vraiment l'expérience en elle-même.
Tout à fait, ouais.
Et les choses concrètes, en fait, tout simplement.
Oui, tout à fait. Vivre sa vie, car elle est courte, je pense. J'en suis sûr. Et il faut absolument expérimenter un maximum de choses. Si on a envie de partir un an au Vietnam, on le fait. Et puis, il y aura toujours quelque chose à retirer de chaque expérience. Ceux qui ne retirent pas grand chose au final, c'est ceux qui restent dans leur canapé, par exemple. Enfin, c'est une mauvaise image que je dis là, mais parce qu'aujourd'hui on peut télétravailler, donc en restant dans son canapé, mais voilà, c'est vraiment, il faut bouger, il faut apprendre, pas forcément dans des lieux qui sont à l'autre bout de la planète, mais on peut trouver des choses, des expériences qui sont à notre porte, mais ce qu'il faut, c'est se lever et avancer.
Voilà. C'est ta philosophie ?
Tout à fait, ouais. Que j'essaye d'avoir avec tout le monde autour de moi.
Au quotidien, qu'est-ce qui fait que tu as autant envie de bouger, de changer, d'avoir plein d'expériences ?
Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que ça vient de mon éducation. J'ai été éduqué par des parents qui ont été très aimants et qui nous ont toujours emmenés voir des choses et faire des choses. Donc je puise cette volonté et cette joie de vivre ma vie au jour le jour parce que j'ai été éduqué comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je remercierai jamais assez mes parents, parce que je vois la différence avec quelqu'un qui va pas forcément se donner les moyens de faire les choses qu'il a envie de faire. Et je puise voilà mon énergie dans ma famille, dans mon éducation, dans moi-même, dans mes expériences, dans mes amis. Et c'est pour ça que c'est important de s'enrichir des autres, parce que au final, même si c'était pas forcément une bonne personne pour nous à ce moment-là, elle nous a forcément appris quelque chose. C'est dans mes expériences que je retire toute ma joie de vivre aujourd'hui et mon envie de bouger, justement. Voilà.
C'est le mot de la fin.
C'est le mot de la fin pour moi.
Bah merci beaucoup Louis pour ce moment qu'on a passé ensemble.
Merci Emma.
Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci pour vos écoutes et vos retours. Continuez à le faire, ça me fait vraiment plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me laisser un message sur Apple Podcasts. Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Altitude est un podcast rendu possible grâce aux facultés de l'Université catholique de Lille. À très vite !